Bonjour, samedi 13 juillet, ravi de vous retrouver pour effectuer un nouveau tour du monde de l'actualité.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Grâce aux correspondants et aux envoyés spéciaux de RFI, nous partirons pour Athènes, Téhéran, Niamey par exemple. Nous sommes en compagnie de notre ami Sedi Kaba, journaliste, spécialiste on le sait des questions africaines, notamment une semaine d'actualité à écouter aussi sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Mais tout de suite, intéressons-nous à un pays qui a quitté la une de l'actualité et pourtant il s'agit de l'Afghanistan. Talibans et divers hauts responsables se sont retrouvés en effet à Doha pour discuter d'un cessez-le-feu. Ils se sont mis d'accord mardi sur une déclaration conjointe qui semble porteuse d'espoir, même si sa portée demeure limitée, très limitée. Sonia Ghezali à Kaboul.
Cette déclaration est une feuille de route sur laquelle les représentants talibans et la délégation afghane se sont mis d'accord. Elle comporte plusieurs points, parmi lesquels réduire la violence, démarrer un processus de paix sans l'ingérence des pays voisins. Autour de la table, les membres de la société civile et de partis politiques afghans se sont tous déclarés satisfaits de cette rencontre. Les femmes y participant s'étonnant de voir les représentants talibans désireux d'échanger avec elles. La déclaration conjointe comporte une clause qui stipule que les droits des femmes seront respectés en accord avec les valeurs islamiques. Encore une fois, peu de détails sur ce que cela signifie concrètement. Une voix dissonante s'est toutefois fait entendre parmi les participants, celle de Chargoul Rezaï. Nous avons besoin de plus de temps pour évaluer si les talibans ont vraiment changé, dit cette militante de la société civile. Les autorités afghanes saluent la rencontre qui a eu lieu. Cela est un progrès certain, a réagi la présidence. Souhel Shahin, le porte-parole des talibans à Doha, a quant à lui rappelé la position des insurgés. Toute discussion sur un processus de paix intra-afghan et le cessez-le-feu ne pourra avoir lieu qu'après l'annonce du retrait des troupes étrangères.
Une semaine d'actualité avant d'écouter Sedi Kaba. Dans un instant, partons maintenant pour Niamey, où avait lieu le week-end dernier un sommet de l'Union africaine consacré au lancement d'une zone de libre-échange sur le continent. Pierre Firsion nous a tout expliqué.
Ça y est, c'est parti pour la ZLEC ou la ZLECAF, comme on l'appelle, une nouvelle entité qui doit permettre de multiplier les échanges intra-africains et ainsi accélérer le développement du continent. Les chefs d'État et de gouvernement ont donc officiellement lancé cette zone de libre-échange et se sont entendus sur certains des instruments à mettre en place pour permettre son fonctionnement, en particulier en ce qui concerne les offres tarifaires en ligne, le système de paiement numérique et l'Observatoire africain du commerce. Le choix d'Accra comme siège du futur secrétariat permanent de cette ZLEC a été validé. Il a également été confirmé que la zone n'entrera pleinement en vigueur que dans un an, le 1er juillet 2020. Au cours de la cérémonie de lancement, le nom des pays qui ont signé cet accord a été égrené. Ils sont 54. Seule l'Érythrée ne l'a pas signé. Le Nigeria et le Bénin, eux, l'ont fait dimanche matin. 27 pays au total ont ratifié ce texte. Les deux derniers à l'avoir fait dimanche matin, ce sont le Gabon et la Guinée équatoriale. Pour beaucoup, ce lancement est un moment historique. En ouverture des travaux dimanche matin, le président nigérien, Mamadou Issoufou, avait estimé que c'était là l'événement le plus important dans la vie du continent, et ce depuis la création de l'OUA et sa transformation en Union africaine.
Bonjour, Sedi Kaba.
Bonjour, Pierre-Edouard. J'ai grand plaisir à retrouver les auditeurs de la radio mondiale et particulièrement ceux de cette émission.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver. La dernière fois, c'était dans cette émission au mois d'avril. Donc, nous respectons le rythme environ tous les deux mois, à peu près. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste notamment des questions africaines. Alors, comme à chaque fois, la venue de Yann Mince provoque toujours un effet similaire, les auditeurs nous écrivent beaucoup et beaucoup d'entre eux nous pose des questions sur cette ZLEC qui a un drôle de nom précisément, ZLEC. Alpha Idi Bald à Conakry nous demande est-ce que nous pouvons considérer la signature du ZLEC comme étant le début du décollage de l'économie de l'Afrique par exemple, c'est sa question. Souni Mahamat Nokour qui lui nous écoute à Fayal-Arjo au nord du Tchad vous demande précisément ce que vous pensez de cet accord, tout comme Jonas qui lui nous écoute à Lubumbashi qui voudrait avoir votre analyse sur la création de cette ZLEC.
Non, la ZLEC procède d'un constat. Il a été constaté qu'en Afrique, les échanges commerciaux entre pays africains sont de l'ordre de 13 à 15% actuellement, contre environ 70% pour l'Europe, 50 à 60% pour l'Asie. Donc il y a ce premier constat de la faiblesse du niveau d'échanges commerciaux entre les pays africains eux-mêmes. En réalité, lorsqu'on parle de 13 à 15%, ce chiffre cache des réalités beaucoup plus graves. Les échanges au sein de l'Union du Maghreb arabe, les pays d'Afrique du Nord, sont autour de 2%. Les échanges en Afrique de l'Ouest sont un peu à hauteur de 15 à 19%. Et ailleurs, en Afrique centrale, par exemple, les échanges sont beaucoup plus faibles. Il y a ce constat de la faiblesse des échanges. Il y a aussi le constat de certaines situations aberrantes. Un pays comme le Nigeria, qui a pour voisin le Niger et le Tchad, importe de la viande du Brésil, de l'Union européenne. Alors que ces deux pays-là auraient pu lui fournir la viande dont il a besoin si on était organisé, si justement les échanges commerciaux avaient été pensés, réfléchis et mieux organisés. C'est aussi un autre exemple que je donne de situation aberrante pour expliquer l'enjeu de la ZLEC. Par exemple, des pays africains d'Afrique de l'Ouest importent de l'oignon des Pays-Bas, alors que le Niger est producteur d'oignons et la quantité de l'oignon produite au Niger peut suffire justement à couvrir les besoins d'un pays comme la Côte d'Ivoire, d'un pays comme la Gambie, d'un pays comme le Sénégal. Or, parce qu'on n'est pas organisé et parce qu'il y a des barrières encore tarifaires et parce qu'il y a des tracasseries administratives, il est moins cher d'importer de l'oignon des Pays-Bas que d'importer de l'oignon du Niger. Ça, ce sont des aberrations justement qui font que un des enjeux de la ZLEC, c'est justement de combler tout ça, de porter le niveau d'échange commercial entre les pays africains à un niveau plus important, sans compter l'accompagnement que ça implique, c'est-à-dire le travail en matière d'industrialisation, le travail en matière de mise à niveau des économies. C'est tout ça qui explique aujourd'hui tout l'enthousiasme suscité par la création de cette zone de libre-échange économique.
Donc, c'est dit que le président nigérien a raison de dire que c'est une étape aussi importante que la création de l'Union africaine.
Absolument, c'est une étape importante parce que l'Union africaine était, c'était une union politique. Il ne faut pas oublier que lorsque en mai 1963, on crée l'Union africaine. Le 24 mai, justement, il y a un processus politique. Cette unité qui a été voulue par le père fondateur devait accompagner aussi la décolonisation d'une partie du continent parce que une partie de l'Afrique n'était pas libre. Notamment, les pays lusophones d'Afrique étaient encore sous le joug de la colonisation portugaise. Certains pays comme Djibouti qui étaient encore des colonies françaises. Donc, il y avait ce travail politique qui devait être fait. Et qui a été fait doucement, qui a été fait à petits pas. Et aujourd'hui, le lancement de cette ZLEC inaugure le travail d'intégration économique à l'échelle du continent. Parce qu'un des enjeux, c'est de créer un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Ce qui est énorme avec un PIB qui est évalué en plusieurs milliers de dollars. Donc, il y a un enjeu important dans l'unité économique du continent, qui est l'unité par laquelle, parce qu'il y a aujourd'hui, l'Afrique ne pèse pas dans le commerce mondial. C'est à peu près, toute l'Afrique réunie, c'est moins de 3% des échanges commerciaux sur la planète. Si on fait cette ZLEC, ça va permettre à l'Afrique de mieux poser sur les échanges internationaux et de mieux négocier aussi. Il y a une image, lorsque on fait un sommet entre la Chine et le Japon, il y a 54 pays africains en face et il y a une seule personnalité chinoise en face. Donc, vous voyez, il y a une justification à cette zone de libre-échange économique.
À suivre, donc.
Absolument. Et il faut, je pense qu'il y a de l'enthousiasme, mais il faut se garder de penser que tout est réglé. La ZLEC ne règle pas tout. Il y a des préalables. Et il faut travailler sur ces préalables si on veut tirer les meilleurs dividendes de cette zone de libre-échange économique. Certains font remarquer qu'il y a déjà des commissions économiques régionales qui n'ont pas donné tous les résultats qu'on escompte parce qu'il n'y a pas la volonté politique. En théorie, aujourd'hui, vous pouvez circuler de Niamey à Abidjan sans avoir besoin de tracasserie. Mais dans la pratique, il y a beaucoup d'entraves. Donc, il faut travailler à surmonter toutes ces entraves pour qu'on puisse tirer le meilleur profit de cette zone de libre-échange économique continentale.
Sept jours dans le monde.
Et partons pour la Grèce maintenant. Sédic est héritier d'une dynastie politique, Kyriakos Mitsotakis, que les Grecs ont choisi dimanche pour être leur prochain premier ministre, s'est hissé au pouvoir à la faveur d'un climat très anti-Tsipras et sur la promesse d'en finir avec une décennie de crise. C'est donc une sévère défaite pour le sortant. Reportage chez ses supporters d'Anastasia Bekio.
Ça n'est pas l'ambiance des grands jours sous le chapiteau rouge de Syriza installé place Syntagma. Une poignée de sympathisants a les yeux rivés sur les écrans qui diffusent la soirée électorale. À l'annonce des premiers résultats, Dimitri, lunettes rondes sur le nez, fait la moue.
C'est mauvais. On va avoir un néolibéralisme dur et une baisse des salaires. Mitsotakis, c'est le Macron de la Grèce. C'est l'homme des banques qui va appliquer ce que lui dictent les Européens. Ce sont eux, désormais, qui nous diront comment on doit vivre.
Alexis Tsipras n'a pas tardé à reconnaître sa défaite et à appeler son rival Kyriakos Mitsotakis avant de faire une déclaration devant la presse. Aujourd'hui, c'est la tête haute que nous acceptons le verdict populaire, a lancé le Premier ministre. Après le discours, le chapiteau s'anime. Plusieurs dizaines de militants, jeunes pour la plupart, investissent les lieux. La déception se mêle au soulagement d'un score pas si déshonorable, comme le souligne Thanos Mikalas, directeur de théâtre et militant de Syriza.
Nous avons perdu que 4 points seulement. Il y a 4 ans, quand nous avons pris le gouvernement, nous avons 35. Pour ça, aujourd'hui nous sommes 31. C'est une voix de la part du peuple. Vous êtes vivant. Avancez encore. Avancez.
Thanos en est persuadé. Syriza continuera à faire entendre sa voix dans la politique grecque, mais désormais dans l'opposition.
Sedikaba, une page est tournée en Grèce.
Absolument, une page est tournée. En 2015, lorsque Tsipras a été élu, ça a suscité un énorme espoir. Je pense qu'il y a plus un vote sanction contre Alexis Tsipras que adhésion à son rival. Parce que Tsipras a été sanctionné pour n'avoir pas tenu les promesses qu'il avait faites en 2015.
Il n'a pas exactement mené la politique qu'il avait promis.
Il n'a pas exactement mené la politique qu'il avait promis, une politique de gauche. Il s'est compromis avec les institutions financières internationales à force de concessions. Il a abandonné l'âme de la gauche et aujourd'hui, il en paye le prix. Donc, ce n'est pas surprenant, justement, que ce résultat soit celui qui a été enregistré parce que...
Certains diraient qu'il n'avait pas le choix.
Il n'avait pas le choix, mais justement, les électeurs l'avaient choisi pour qu'il ait le choix. Et lui, face à la réalité du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, il a choisi de faire des concessions, et des concessions en concessions. Aujourd'hui, son électorat a estimé qu'il y a eu une trahison et l'a sanctionné dans les urnes. C'est tout à fait le jeu de la démocratie qui s'est exercé en Grèce.
Changeons maintenant de continent, c'est dit que partons maintenant pour l'Iran qui a menacé cette semaine l'Europe, très clairement à Téhéran, Ziavech Ghazi.
Téhéran a décidé de jouer la surenchère au lendemain de sa décision de ne plus respecter le seuil de 3,67% pour l'enrichissement d'uranium, malgré les condamnations des pays européens, des États-Unis et d'Israël. Si les Européens ne tiennent pas leurs engagements, notre troisième pas, dans 60 jours, sera encore plus fort, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réaction à la position des pays européens qui ont condamné la décision de Téhéran et ont demandé à l'Iran de faire marche arrière sur l'enrichissement d'uranium. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a été plus précis en affirmant que l'Iran pourrait augmenter son niveau d'enrichissement à 20%. L'Iran demande aux pays européens d'appliquer leurs promesses et de prendre des mesures concrètes pour permettre à l'Iran d'exporter son pétrole et d'avoir des relations bancaires et commerciales normales avec le reste du monde. En effet, l'économie iranienne est étranglée de plus en plus par les sanctions américaines et Téhéran demande aux Européens des actions concrètes. Dans ces conditions, l'Iran a annoncé la visite dans les prochains jours du conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron pour tenter de faire baisser les tensions.
À suivre évidemment dans nos journaux. Retournons dans le pays voisin, l'Afghanistan, après la déclaration conjointe des parties en négociation à Doha, dont nous parlions en commençant ce numéro d'une semaine d'actualité. Et retrouvons Sonia Ghezali et quelques habitants de la capitale, Kaboul.
Au volant de son taxi jaune, Farid Hamidi sillonne les rues de Kaboul depuis près de 30 ans.
Regardez ma barbe et mes cheveux blancs, j'ai passé ma vie dans la guerre.
Une large cicatrice traverse l'intérieur de son avant-bras. Il a été blessé dans une attaque suicide l'année dernière à l'aéroport de Kaboul. Il ne souhaite que la paix et se dit confiant sur l'issue des pourparlers à Doha.
Les talibans sont afghans et ils sont aussi fatigués de cette guerre. Notre peuple meurt. Nous perdons des êtres chers dans cette guerre, des mères, des sœurs, des frères. Les talibans aussi perdent des proches.
Sous un parapluie pour se protéger du soleil, Bahara, 19 ans, élégante, perchée sur des talons, se promène avec une amie. Elle ne fait aucune confiance aux talibans. Ils ne respecteront pas leurs engagements, dit-elle.
Les talibans mènent toujours des attaques dans notre pays. Ils veulent juste capturer l'Afghanistan et y faire toutes les mauvaises choses qu'ils souhaitent. Je ne veux pas que les États-Unis quittent l'Afghanistan parce qu'ils nous protègent des talibans.
À Kaboul, si tout le monde aspire à la paix, beaucoup craignent de perdre le peu de progrès réalisé au cours des 18 dernières années avec un accord signé à la hâte.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sedi Kaba, on va commencer avec l'Afghanistan. Sedi, alors il s'agit d'une déclaration de bonnes intentions, hein, cette déclaration de Doha. Les talibans veulent en effet le départ des quelques 22 000 soldats étrangers, dont 14 000 américains, donc il s'agit de mots pour l'instant, mais peut-être aussi d'une petite avancée, non ?
Absolument, c'est une avancée formidable. Le fait qu'on envisage des négociations inter-afghanes, les Afghans entre eux. Si les Afghans se parlent, il y a espoir qu'on arrive à un compromis. C'est la première fois qu'il y a des négociations directes entre Afghans eux-mêmes. Il y a eu le cycle de négociations entre les Américains et les Afghans qui n'a pour l'instant rien donné. Mais je pense que le fait qu'on choisisse de discuter est une bonne chose parce que la solution militaire n'a rien donné pour l'instant. Il fut un temps où il y avait 140 000 soldats sur le territoire afghan et ça n'a pas vaincu l'insurrection, ça a protégé les citoyens, mais ça n'a pas réduit, ça n'a pas effacé toute la menace, il y a eu des actions. Je pense que la perspective de dialogue peut ouvrir, on peut arriver à un compromis, quel qu'il soit.
Ceci dit, les talibans sont toujours là et sont visiblement décidés à reprendre le pouvoir.
Absolument, les talibans sont là, ils font partie de la solution. Ils sont une partie du problème aujourd'hui, mais ils font partie de la solution aussi. Donc c'est pourquoi il est bon de discuter avec eux pour voir quel type de compromis on peut trouver, comment l'Afghanistan peut s'en sortir. Parce que il y a quelques années, personne n'aurait envisagé une discussion avec les talibans. C'est la réalité du terrain, le contexte qui a forcé les gens à amener, à vouloir discuter avec eux. Même leurs pires ennemis, qui sont les Américains, ont essayé de discuter avec eux pour voir comment on peut en sortir. Parce que il n'y a aucun intérêt à s'entêter dans une voie lorsqu'elle ne donne pas les solutions. La voie militaire, pour l'instant, n'a pas donné tous les résultats qui étaient espérés. Il faut envisager une autre voie, notamment celle de la discussion avec les talibans, voir quel type de concessions on peut leur faire et quel type de concessions eux-mêmes sont prêtes à faire. C'est pour ça que ça, c'est une esquisse pour l'instant. On esquisse. On n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut triomphalement saluer un accord entre les talibans et les autres partis, mais le fait que les discussions soient engagées me paraît être déjà un pas en avant.
L'Iran, maintenant, Sedi Kaba, et la reprise de son programme d'armement nucléaire, d'enrichissement d'uranium à la suite du départ des États-Unis, du texte du traité qui avait été signé. Tension donc avec les États-Unis, ça on le sait, et tension montante aussi avec l'Europe.
Tout à fait.
Désormais.
Pour mieux comprendre la posture de l'Iran aujourd'hui, il faut interroger l'accord de 2015. L'accord fait un certain nombre d'obligations à toutes les parties. L'Iran semble avoir rempli son contrat jusqu'à ce que Trump arrive au pouvoir. C'est quand Trump arrive au pouvoir qu'il a décidé de retirer les États-Unis de l'accord et d'infliger des sanctions qui n'étaient pas justifiées à l'Iran parce que ça, c'est un choix unilatéral des États-Unis. Et il y a l'Iran, il y a les États-Unis et les Européens dans l'accord. Et les Européens se sont retrouvés dans une situation où ils ne peuvent pas prendre position, il ne peut pas dénoncer le comportement américain et ne peut pas apporter de soutien aux Iraniens. Les Iraniens se sont estimés affranchis de l'accord parce que justement, et ont rempli leur contrepartie, et dans le camp d'en face, notamment par la faute des États-Unis, le camp européen, le camp occidental n'a pas rempli sa contrepartie. Maintenant, reste à savoir si le choix de l'Iran, c'est lui d'aller, de s'affranchir de toutes les obligations, est le meilleur choix. Et l'Europe semble un peu démunie dans cette affaire. Elle n'a pas de voix et elle semble être spectatrice. Et c'est ça que l'Iran lui reproche.
Europe qui, par ailleurs, essaie de contourner les sanctions américaines sur cette question iranienne.
Absolument. L'Europe cherche à contourner les sanctions américaines parce qu'elle sait que les sanctions américaines sont injustifiées dans le contexte d'aujourd'hui. Les sanctions avaient été envisagées parce que avant l'accord de 2015, il y avait des sanctions parce que l'Iran avait un programme nucléaire, avait refusé que les inspections de l'Agence de l'énergie atomique s'effacent sur son territoire. Des sanctions étaient à l'époque justifiées. Mais à partir de l'accord de 2015, il n'y avait pas de justification aux sanctions. Sauf que Trump est arrivé au pouvoir et Trump qui veut donner des gages au lobby pro-israélien, puisqu'on connaît la position d'Israël sur cette question, a décidé unilatéralement de retirer les États-Unis de l'accord de 2015 et d'infliger de nouvelles sanctions. Là, il se prépare à infliger encore de nouvelles sanctions. Mais sauf que on oublie souvent que ça fragilise les modérateurs. Même en Iran, l'accord de 2015 n'était pas un accord unanime. Il y avait des parties de la société iranienne qui ne voulaient pas de cet accord. Aujourd'hui, ces gens
récupère la situation pour dire que on vous avait prévenu en 2015 déjà que ça ne servait à rien de faire un accord avec les Occidentaux.
Alors que l'AIEA, l'agence des Nations Unies qui est chargée de surveiller ce désarmement nucléaire, reconnaît que l'Iran joue le jeu en quelque
Absolument.
Sorte, puisque des caméras ont été installées dans tous les sites contrôlés qui montrent en temps réel, comme on dit aujourd'hui, la réalité des choses.
C'est ça qui explique aujourd'hui une sorte de sympathie dont l'Iran bénéficie dans l'opinion mondiale. Les pays européens ont dit que l'Iran a rempli sa part de contrat. L'AIEA a dit que l'Iran a rempli sa part de contrat. C'est pourquoi personne n'a trouvé de justification à la décision de Trump de se retirer. Puisque si, par exemple, l'AIEA avait dit que l'Iran ne respectait pas sa part de contrat ou que les pays occidentaux ont apporté la preuve que l'Iran ne respecte pas sa part de contrat, on peut comprendre la justification de l'accord. Toutes les évaluations indépendantes ont apporté la preuve que l'Iran a respecté sa part de contrat. Donc la position américaine était une position totalement injustifiée. Maintenant, le choix de l'Iran lui-même, est-ce qu'il règle le problème ou est-ce qu'il l'aggrave? Ça, c'est une autre question.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler de l'actualité française maintenant, Sedi Kaba, avec d'abord le Parlement qui a adopté définitivement jeudi l'instauration d'une taxe GAFAM, faisant de la France l'un des premiers pays à imposer le chiffre d'affaires des géants du numérique. Elle devrait s'appliquer à une trentaine de groupes, incluant donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Abla Junaïdi.
La loi a été conçue juste après le déclenchement de la crise des Gilets jaunes pour rétablir la justice fiscale. Elle vise des géants du numérique qui se jouent des failles du système fiscal international en installant leur siège là où la taxation est plus clémente. Désormais en France, ils seront prélevés à hauteur de 3% sur leur chiffre d'affaires quand ce dernier dépasse 750 millions d'euros au niveau mondial et atteint au moins 25 millions d'euros dans l'Hexagone, là où se trouvent les internautes. Une centaine de sociétés actives en France, de Google à Apple en passant par Airbnb, BNB, Instagram, voire le français Criteo seront ciblés sur leur activité de pub en ligne, de vente de données à des fins publicitaires ou de mise en relation des internautes sur les plateformes. L'État espère en tirer 400 millions d'euros dès cette année. Même si le texte voté aujourd'hui a rayé la mention temporaire, la loi ne sera pas éternelle, jure le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui l'envisage comme un levier pour faire avancer l'idée au niveau multilatéral d'ici le G20 de l'année prochaine. C'est compté sans le gouvernement américain qui menace déjà d'une riposte pour défendre ces géants du numérique.
Direction un palais de justice maintenant, comme c'est souvent le cas quand on parle des événements en France. Le tribunal correctionnel de Paris a en effet relaxé Bernard Tapie, le PDG d'Orange Stéphane Richard et quatre autres prévenus jugés au printemps dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui avait octroyé, on le sait, 403 millions d'euros à l'homme d'affaires en 2008, Franck Alexandre.
Aucun élément ne permet d'affirmer que la décision du tribunal arbitral a été surprise par des manœuvres frauduleuses commises par Bernard Tapie, dit le tribunal correctionnel dans son délibéré. Une phrase, celle-ci, suffit à désavouer le parquet et à détricoter son accusation. Pour le tribunal, la preuve d'une escroquerie n'a pas été apportée. La relaxe générale s'impose. Pourtant, au civil, les époux Tapie restent condamnés à rembourser les 400 millions d'euros qui leur avaient été attribués par le tribunal arbitral. Dans ce volet civil, la justice avait estimé que Bernard Tapie avait été à la fois l'architecte et le bénéficiaire de l'arbitrage, la décision est aujourd'hui définitive. Aucune cohérence entre ces deux décisions, dit la défense, évoquant une histoire insensée, insensée à plus d'un titre. Ainsi, Stéphane Richard était à l'époque des faits directeur de cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'économie, jugé coupable de négligence par la Cour de justice de la République pour avoir renoncé à un recours contre cet arbitrage controversé. Mais là encore, pour le tribunal, la preuve n'a pas été apportée. Qu'il ait utilisé ses fonctions de directeur de cabinet pour favoriser les intérêts de Bernard Tapie. Deux poids, deux mesures donc. L'affaire Tapie a réussi à rendre la justice complètement inaudible.
Selon le site Mediapart, l'actuel ministre de l'écologie, François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, et son épouse ont multiplié les dîners privés fastueux à l'hôtel de Lassé, résidence de l'Assemblée nationale. Le journal en ligne a recensé une dizaine de ces dîners dans les murs de cette résidence du président de l'Assemblée nationale, entre octobre 2017 et juin 2018, qui rassemblait à chaque fois entre 10 et 30 invités appartenant pour l'essentiel au cercle de son épouse, journaliste au magazine People, Gala, Julien Chavannes.
Officiellement, pour Matignon, il n'y a pas d'affaire. Aucune règle n'a été enfreinte et on ne gouverne pas sous le coup de quelques photos, minimise un proche d'Édouard Philippe. Mais ce même conseiller lâche, on comprend que ça choque les Français. Le Premier ministre n'est pas neuneux. C'est pas terrible en termes d'image, reconnaît un stratège d'une secrétaire d'État. C'est un peu gênant, mais il y a des dîners un peu partout comme ça, confesse-t-il. C'est chaud, c'est pas très macronien, peut-on entendre chez un autre ministre, où l'on craint un feuilleton de nouveaux épisodes embarrassants. Car les travaux de l'appartement de fonction de François de Rugy intéresseraient également les journalistes de Mediapart. Le sujet a même été évoqué entre le ministre de la Transition écologique et Édouard Philippe. Les deux hommes se sont déjà parlé à deux reprises pour tenter de maîtriser le début d'incendie. Pour l'instant, François de Rugy garde son poste. Emmanuel Macron ne réagit jamais à chaud, rappelle une conseillère gouvernementale, inquiète pour la suite. Il ne faudrait pas qu'on refasse une Benalla en faisant trop dur et la polémique.
François de Rugy donc qui reste à son poste avec le soutien d'Édouard Philippe. Écoutez ce que disait à ce sujet jeudi René Dosière, l'ancien député spécialiste de la gestion des finances publiques.
Je pense que le gouvernement n'a pas voulu, si vous voulez, en quelque sorte céder devant la presse. Bon, il est vrai que les pièces qui étaient fournies ne sont pas du style d'une enquête judiciaire, mais il n'empêche, on voit bien le choc que représentent les photos et le fait d'utiliser des vins à des prix inabordables pour simplement régaler quelques copains. C'est quand même un comportement d'élu qui n'est plus admissible et qui choque profondément les Français. Il ne faut pas oublier le mouvement des Gilets jaunes et les motifs qui ont fait que les Français se sont révoltés.
Mediapart qui a également publié mercredi des informations concernant un logement HLM à Paris occupé par Nicole Klein, la directrice de cabinet de François de Rugy depuis 2001 et conservé de 2006 à 2018 pendant 12 ans donc alors qu'elle n'habitait plus la capitale. Nicole Klein a quitté ses fonctions jeudi. Sédi Kaba, vous reprendrez bien un peu de homard ?
Oh oui, mais justement, c'est une affaire vraiment très embarrassante pour l'exécutif. On ne peut pas faire la leçon au monde, on ne peut pas faire la leçon aux gilets jaunes, on ne peut pas faire la leçon aux citoyens français, dire que il faut se serrer la ceinture, nous sommes en situation de difficulté et voir des fastes, des cérémonies fastueuses organisées avec l'argent public.
Avec des bouteilles de vin
à 500 euros. Mmh. Une rénovation à 63 000 euros, dont 17 000 euros pour le dressing seulement de l'hôtel particulier du ministre. Il y a quelque chose de tout à fait choquant. Et on comprend aujourd'hui les réactions, on comprend toute la difficulté que l'exécutif a à développer un argumentaire convaincant. Parce que c'est de l'argent public. Les Français sont écrasés par l'impôt. Le peu d'argent qu'il gagne est versé au fisc et va au trésor public. Et cet argent est sorti pour les dépenses de cette nature. Je comprends toute la difficulté que l'opinion a accepté ce type de comportement. D'autant que François de Rugy lui-même s'est érigé en paragon de la vertu en faisant la leçon aux gens, en disant qu'il faut...
Vous savez qu'il faut toujours se méfier des donneurs de leçons. Hein.
Absolument. Comme s'il était dans une posture de dire... faites ce que je vous demande, ne faites pas ce que je fais. C'est pas ça. L'homme politique doit être exemplaire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je pense que c'est une affaire qui va traîner comme le parallèle a été fait dans l'élément qu'on a suivi par rapport à l'affaire Benalla, qui n'est pas encore éteinte. L'incendie de l'autre côté n'est pas éteint. C'est un nouvel incendie qui vient de se déclarer pour la Macronie.
La France, premier pays à taxer les GAFAM, ça vous inspire un commentaire. Et la menace immédiate de sanctions américaines dans la foulée.
Je pense que sur le principe, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de raison que des groupes comme Amazon, comme Google, comme Microsoft, qui réalisent des chiffres d'affaires incroyables à milliards de dollars par an, ne soient pas imposés, trouvent les moyens de faire de l'optimisation fiscale. Ils ne sont pas imposés aux États-Unis, ils choisissent des paradis offshore pour localiser leur siège de façon à échapper à l'impôt. Je pense que c'est une avancée considérable les imposer.
Mais la France est un peu seule.
Absolument.
Dans cette histoire,
hein. Et je pense que c'est là l'erreur. La France aurait dû associer d'autres pays pour éviter d'être écrasée par le rouleau compresseur américain, parce que vous avez vu, les États-Unis ont dit qu'ils vont ouvrir une enquête pour savoir s'il n'y a pas lieu d'envisager des sanctions. On parle même de la taxation du vin français importé aux États-Unis. Je pense qu'il faut trouver un moyen, il faut peut-être faire une coalition de pays pour obtenir justement que des grands groupes qui gagnent autant d'argent ne puissent pas échapper à l'impôt.
Mais cette coalition européenne semble difficile à créer, hein, à monter.
Ah oui, vous savez, dès qu'il s'agit...
Il y a quelques paradis fiscaux en Europe aussi. Hein.
Bien sûr, il y a des pays qui tirent profit de cette situation en accueillant ces grands groupes ou en leur faisant des cadeaux fiscaux ou en faisant en tout cas des faveurs qui leur permettent d'échapper au fisc. Mais je pense qu'il faut mettre fin à ça parce qu'il y a un problème de justice sociale. Il n'est pas normal qu'un ouvrier qui gagne 1500 euros soit imposé alors que des groupes comme ça qui réalisent des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an puissent échapper à l'impôt.
C'est dit que l'actualité française est aussi l'épilogue d'une affaire hors norme et douloureuse. Vincent Lambert, patient en état végétatif depuis presque 11 ans, est décédé jeudi au CHU à l'hôpital de Reims. Un peu plus d'une semaine après l'arrêt de ses traitements, un cas qui est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France.
Absolument, c'est une affaire douloureuse comme vous avez dit, avec des ramifications à la fois sociales, à la fois morales, à la fois éthiques, à la fois familiales, à la fois sanitaires. Et je pense que au-delà du cas individuel, ça amène à s'interroger sur la fin de vie de façon générale. Comment une société conçoit la fin de vie, jusqu'où elle est prête à aller, jusqu'où elle n'est pas prête à aller. Mais c'est un débat à la fois éthique, à la fois sanitaire, à la fois politique, qui n'est pas encore clos.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc continuez à nous écrire. Je vais saluer quelques auditeurs. C'est dit que vous le savez, je le fais chaque semaine. Un bonjour aujourd'hui à Fousseni, à Thé Adamou. Je vous suis depuis l'extrême nord-est du Togo, écrit-il, précisément dans le village de Kouloumi. Bien des choses à vous et bonne émission. Merci Fousseni. Bonjour à Oumar qui écrit, lui de Boké en Guinée-Conakry. Il salue toute l'équipe, son frère Alpha Sidibé à Cancan et Ibrahim à Cancan également. Bonjour à Alpha à Bamako, Latif à Lomé, à Prosper, étudiant en droit dans la capitale du Togo. Bonjour également à Issa Barra à Conakry et à Habib également dans la capitale guinéenne. Enfin, un salut à Jonathan à Goma, Moutari à Zinder et à Omar à Niamey.
Une semaine d'actualité.
Et si nous parlions de la France et de l'Afrique maintenant, Sédi Kaba, avec d'abord des armes françaises de fabrication américaine retrouvées en Libye dans le camp du maréchal Haftar, non reconnu par ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale. Rappelons que l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar, qui contrôle une large partie du pays, continue son offensive contre Tripoli, où siège un gouvernement d'union nationale, reconnu lui par l'ONU mais affaibli. Alexandra Branjon.
Que faisaient 4 missiles anti-char Javelin appartenant à la France dans un camp du maréchal Haftar? C'est la question que se posent tous les observateurs. Les militaires français soutiennent-ils activement Haftar dans son offensive sur Tripoli? Demande une chercheuse du groupe International Crisis Group. Sans compter qu'un transfert de ses armes à ses troupes constituerait une violation de l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies. La France reconnaît avoir apporté du renseignement au maréchal Haftar dans l'est et le sud du pays, mais réfute tout soutien militaire dans son offensive contre la capitale. Ces armes étaient destinées à la protection d'un détachement français déployé pour faire du renseignement en matière de contre-terrorisme, explique le ministère français des armées, qui ajoute que ces munitions endommagées et hors d'usage étaient temporairement stockées dans un dépôt en vue de leur destruction. Paris, qui insiste qu'il n'a jamais été question ni de vendre, ni de céder, ni de prêter ou de transférer ses munitions à quiconque en Libye, sans pour autant expliquer comment ces missiles ont fini dans un camp de l'homme fort de l'Est libyen.
Partons à nouveau pour le Niger, un pays que vous connaissez bien, Sédi Kaba. La base de l'armée française à Madama, dans le nord du pays, a été fermée. Les forces françaises disposaient de cette base dans le cadre de l'opération anti-djihadiste française Barkhane, on le sait, qui immobilise, rappelons-le, quelques 4500 militaires dans le Sahel, Olivier Four.
Le retrait de Madama confirme le changement de stratégie de Barkhane. Plus possible d'être partout à la fois et de faire de temps en temps des opérations coup de poing. Objectif à présent, concentrer les forces conventionnelles dans la durée sur quelques régions du Mali pour obtenir des résultats visibles en alliant sécurité et développement. Si Madama était parfaitement placée pour conduire des opérations spéciales dans la région et pour surveiller les passes de Toumo et de Salvador, par où transitent les trafiquants venant de Libye, c'était une base extrêmement isolée. Les conditions climatiques sévères sur place, température et vent de sable, avaient poussé l'armée française à installer des structures temporaires de métal et de textile afin de pouvoir stocker et entretenir le matériel dans des conditions acceptables. Des équipements qui ont désormais été démontés, aucun pays européen ne s'étant montré intéressé pour partager la base et donc la facture avec les Français. Si depuis 2017, le maître mot est d'alléger l'opération Barkhane, avec un volume constant de l'ordre de 4500 hommes, c'est la technique des vases communicants qui s'applique. L'état-major précise d'ailleurs que compte tenu de l'évolution de la situation, il a été jugé nécessaire de récupérer les moyens disponibles à Madama pour les engager au Mali dans le Liptako-Gourma.
Une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie du journaliste Sedi Kaba qui revient régulièrement dans l'émission tous les deux mois environ. Alors un auditeur vous écrit, Sedi, il s'appelle Emmanuel Alexandre, je lis son message. Bonjour, j'ai une question à poser à Monsieur Abba. C'est par rapport aux révélations du New York Times sur l'origine des armes utilisées par l'armée libyenne du maréchal Haftar. Quel est son point de vue ?
Moi, je pense que cet épisode confirme l'ambiguïté de la position française par rapport à la situation en Libye. Officiellement, en tout cas, la France soutient le gouvernement d'union nationale de Sarraj. Mais dans la pratique, ce n'est pas la première fois que la France est soupçonnée de faire le double jeu et de soutenir le maréchal Haftar. Les premières accusations sont venues du régime de Sarraj lui-même. Ensuite, il y a eu quelques indices quand même. En 2016, il y a des éléments des forces spéciales qui sont décédés dans un accident d'hélicoptère. Et tout récemment, la Tunisie a intercepté des membres des forces spéciales françaises qui répliaient compte tenu de la situations qui ont été interceptées, notamment sur l'île de Djerba qui revenait de Libye. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui amènent à considérer que la France officiellement soutient le gouvernement d'Union nationale, mais a des relations assez ambiguës avec Khalifa Haftar. Et on pense même que la France et d'autres pays occidentaux ont au moins donné le feu orange à Haftar pour qu'il lance son offensive du 4 avril qui malheureusement a tourné au fiasco. Beaucoup de gens pensent, beaucoup d'observateurs et moi-même pensons que Haftar n'aurait pas pu lancer cette offensive si il n'avait pas eu des signaux de la part des pays occidentaux qui lui disent si tu réussis, on va applaudir, mais si tu ne réussis pas, c'est ton problème à toi. Donc il y a cette ambiguïté qui fait qu'aujourd'hui, l'argumentaire qui est développé par le ministère de la Défense pour justifier la présence de ces missiles n'est pas très convaincant. Quand on dit qu'ils étaient destinés à être neutralisés, à être détruits, pourquoi ils n'ont pas été détruits? Pourquoi ils se sont retrouvés aux côtés de Haftar et non aux côtés du gouvernement d'Union nationale? Donc il y a beaucoup de zones d'ombre et ce jeu de la France vient aussi accroître la complexité de la situation parce que la France n'est pas le seul acteur. Il y a la Turquie qui livre des armes en dépit de l'embargo, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, etc. Donc il y a un jeu complexe, sans compter l'Égypte de Al-Sisi, il y a un jeu complexe en Libye qui fait qu'aujourd'hui la situation n'est pas près de s'améliorer et si malheureusement on ne trouve pas une solution politique en Libye, l'impact se fait ressentir au Sahel. La situation aujourd'hui au Sahel, la situation du terrorisme, elle tient en partie au fait que la Libye se trouve dans cette situation. Sans compter maintenant pour l'Europe, le flux migratoire. Les migrants partent de la Libye pour tenter de l'aller à l'Europe. Donc il y a plusieurs parties du monde aujourd'hui dont la sécurité dépend de la situation en Libye. Et il est temps que les acteurs extérieurs cessent leur ingérence en Libye pour qu'on envisage une solution politique.
La fermeture de la base de Madama au Niger vous inspire un commentaire, c'est-à-dire un redéploiement en quelque sorte des effectifs et de l'effort de l'opération Barkhane?
Oui, la France a pris la décision qui lui semble convenir parce que elle a décidé de récupérer les moyens qui étaient déployés à Madama pour être réaffectés au niveau de la base de Gossi parce que ça lui paraît être plus efficace. mais la menace elle-même qui a justifié la présence de la base à Madama n'a pas disparu. Parce que la menace, c'est la situation en Libye, c'est aussi la situation des trafiquants. L'armée nigérienne va prendre le relais, ce qu'elle avait déjà fait. À mon avis, la création de la base n'était pas justifiée. Ce qu'il aurait fallu, c'était d'accroître les moyens de l'armée nigérienne pour lui permettre de continuer à faire le travail qu'elle faisait. Puisque après le départ de Barkhane, c'est elle qui va continuer à faire le travail. On aurait pu simplement, au lieu de créer une base aujourd'hui dont la France a décidé quasi unilatéralement, puisque l'état-major dit on a informé nos partenaires nigériens, et l'état-major ne dit pas qu'on a associé à notre décision nos partenaires nigériens. Donc il aurait fallu dès le départ se passer de cette base, renforcer les moyens de l'armée nigérienne, lui permettre de continuer le travail qu'elle fait, puisque à côté de Madama, l'armée nigérienne a une autre base qui est à Daoutimi, elle a encore des éléments à Toumo qui vont continuer à faire le travail que Barkhane n'a pas fait. Mais la leçon de tout cela, c'est que il y a une difficulté pour Barkhane à assumer la mission qui est la sienne. Non pas que Barkhane manque de professionnalisme ou de moyens, c'est la mission elle-même qui est complexe.
Sur un territoire immense.
Un territoire immense de près de 3 millions de mètres carrés, même avec 4500 forces, quelle que soit la mobilité qu'on a, on ne peut pas faire. Et c'est ce qui explique aujourd'hui les djihadistes à moto attaquent le Niger, attaquent le Burkina, ont attaqué le Bénin sans qu'on puisse avoir en face la réponse adaptée.
Sept jours en Afrique.
Et revenons maintenant sur la décision de la Cour pénale internationale à La Haye de reconnaître coupable Bosco Ntaganda, l'ancien chef de milice en République démocratique du Congo, auteur présumé d'exactions en Ituri en 2002 et 2003. Sa peine ne sera connue que dans quelques semaines. Reportage de Stéphanie Mopa.
Monsieur Ntaganda, pour les raisons que j'ai résumées, la Chambre, après avoir entendu toutes les preuves présentées par les parties, vous déclare coupable de meurtre qualifié de crime contre l'humanité.
Le mot « coupable » a résonné 18 fois dans la salle d'audience de la Cour pénale internationale sous le regard d'apparence impassible de Bosco Ntaganda. Le milicien congolais d'origine rwandaise aurait néanmoins encaissé un choc, selon son avocat, maître Stéphane Bourgon, qui a bien l'intention de faire appel de ce verdict.
Nous allons nous concentrer sur la phase de détermination de la peine, mais tout en préparant, il n'y a pas de doute là-dessus, tout en préparant l'appel pour essayer de rétablir des faits. Le jugement ne reflète ni la réalité ni la vérité.
Les juges n'ont rien concédé à la défense, validant les 18 chefs d'accusation avancés par le procureur en reconnaissant une responsabilité totale de l'ancien commandant dans les meurtres, les attaques, les pillages, la conscription forcée d'enfants dans la guerre, le viol de fillettes enrôlées de force. Lors des 4 années de procès, Bosco Ntaganda avait assuré avoir protégé les civils dans sa bataille pour l'Ituri, fier des guerres qu'il conduit depuis ses 17 ans. En attendant l'appel de la défense, il reste encore à plaider sur la peine qui sera prononcé dans les prochaines semaines. Terminator, surnom dont est affublé Bosco Ntaganda pour la violence de ses faits de guerre, risque jusqu'à 30 ans de prison.
Terminons notre voyage pour cette semaine. C'est dit qu'en Centrafrique, dans la capitale du pays, Bangui, pour évoquer les difficultés des habitants qui doivent faire face à une sérieuse pénurie de manioc. Reportage de Charlotte Cosset.
Dans les allées du marché central de Bangui, le manioc se fait rare. Piska tient un petit stand de légumes et de crudités.
Il n'y en a pas de manioc. Manioc, c'est cher. Ngawi, c'est 4500. Normalement, c'est 2500.
Et les clients, ils viennent ?
Viens acheter. Mais c'est cher. C'est cher beaucoup. C'est grave à Centrafrique pour le manioc.
Un problème pris au sérieux par la FAO. Plusieurs éléments, selon l'organisation, expliqueraient cette flambée des prix. La période de soudure, la spéculation liée aux problèmes de carburant, ainsi qu'un troisième facteur, détaille Abel Kumbo, le point focal sécurité alimentaire de la FAO.
À des endroits, on nous fait comprendre qu'il y a des cas de maladie qui font que les pieds de manioc pourrissent. Déjà, on a des points d'étude pour savoir l'ampleur, par exemple, du pourrissement de tubercules dans les zones ciblées. Mais on est en train de pouvoir poursuivre les analyses pour voir est-ce que c'est des pratiques qui poussent au pourrissement ou bien c'est une maladie qui est attaquée pour qu'on arrive à cette situation.
Cette augmentation du prix du manioc vient s'ajouter à d'autres difficultés en ville, notamment le manque de liquidité.
J'ajoute que 4 personnes ont été tuées et 26 blessées mercredi soir et jeudi au cours d'une reprise des affrontements entre des commerçants et des miliciens du quartier musulman PK5 de capitale centrafricaine Bangui. Donc, un commentaire sur cette pénurie de manioc et effectivement la denrée de base de l'alimentation.
Absolument. Un lien a été fait par des études entre la situation d'insécurité et la production alimentaire. Parce que les gens, quand ils sont face à des violences, n'arrivent pas à produire autant qu'ils auraient pu. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au champ. Et parce que même quand ils produisent, il y a un problème d'évacuation entre les sites où la production a été faite et les marchés eux-mêmes. Parce que les situations d'insécurité, sans compter maintenant de producteurs qui sont obligés d'abandonner leurs terres pour aller se réfugier à cause de l'insécurité. Je crois que là, on peut avoir des solutions ponctuelles pour réapprovisionner les marchés à manioc, mais la solution globale passe par le retour à la paix. Si la paix revenait en Centrafrique, si le processus de paix se poursuit et s'accomplit, la production agricole va redevenir normale et on va atteindre le niveau de production du manioc d'antan et les assiettes centrafricaines pourront à nouveau se retrouver avec du manioc autant que le souhaitent les Centrafricains.
Et la tension demeure parce qu'il y a eu effectivement ces affrontements mercredi soir et jeudi au PK5. J'ajoute aussi dans l'actualité africaine cette semaine, c'est dit qu'une tentative de coup d'État, semble-t-il, qui a été déjouée au Soudan. C'est ce que dit un représentant du Conseil militaire au pouvoir depuis la chute d'Omar El-Béchir en avril. Alors qu'un accord a été signé récemment, on en a parlé. On va terminer avec un sujet beaucoup plus réjouissant et vraiment d'actualité, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dit que vous suivez avec passion. Je rappelle que dimanche, il y aura les 2 demi-finales, Algérie-Nigeria et Tunisie-Sénégal. Ça s'annonce chaud, comme on dit familièrement. Ça vous intéresse, le foot ?
Absolument. Moi-même, j'ai été footballeur dans une partie de ma jeunesse. J'ai joué dans l'équipe de football de mon lycée, le lycée Idriss Alaouma à Diffa. J'ai ensuite joué dans la sélection de la région de Diffa. Donc, j'ai eu un parcours de footballeur, même s'il n'a pas prospéré par la suite. D'autres considérations sont venues s'y mettre. Mais chaque fois qu'il y a une manifestation de dimension continentale comme la CAN, je suis effectivement les matchs. Cette année, ça a été la CAN de toutes les surprises. Madagascar, qui arrive jusqu'en 8e de finale, jusqu'en quart de finale même. Le Bénin, qui surclasse des pays qu'on a connus, des grandes nations de football. L'Égypte a été sortie, le Maroc a été sorti. Donc il y a eu beaucoup de surprises de cette CAN et on n'est pas au bout de nos surprises. Et il y a eu aussi des moments très épiques, des moments de tension ultime avec ces qualifications à l'issue des phases de tir au but. Là, on s'achemine vers 2 demi-finales entre 2 grandes nations du football, l'Algérie qui va jouer contre le Nigeria, le Sénégal qui va jouer contre
qui est capable de toutes les surprises.
Le Nigeria qui est capable de toutes les surprises, qui a sorti le Cameroun, qui poursuit son bonhomme de chemin, qui va affronter l'Algérie avec sérénité, la Tunisie qui va jouer contre le Sénégal. Donc,
le Sénégal aussi qui peut surprendre, qui peut surprendre. Y a des joueurs de talent.
On est, pour tout dire, on est vraiment on est à 2 demi-finales qui sont très ouvertes. Les équipes ont les mêmes niveaux de chance. Maintenant, c'est le mental qui va jouer. Et en tous les cas, je pense que on aura du beau spectacle avec ces deux demi-finales.
Merci, Cédric Abba. On va te suivre tout ça, évidemment, dans nos différentes retransmissions des matchs sur l'antenne de RFI.
C'est un grand plaisir. C'est toujours un immense plaisir de venir à cette
émission. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Et on se retrouve à la rentrée. Et on parlera de votre nouveau livre, car il y a un nouveau livre en chantier. Et on en reparlera à la rentrée. Peut-être en octobre ?
Oui, en octobre sans doute, ou en novembre, je m'y engage.
D'accord, en tout cas avant Noël.
Avant Noël, c'est tout à fait ça.
Une semaine d'actualité, merci Cédric Abba, une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky, bien sûr. Je vous retrouve demain pour le magazine ID, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.